Panorama économique.
Bonjour messieurs, dames et bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Les titres, le directeur général de l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, demande aux secrétaires généraux de l'administration publique de la RDC de s'investir dans la mise en œuvre des réformes que le gouvernement initie. C'est à cette seule condition, a dit Wivine Mumba Matipa, que la RDC pourra améliorer sa place dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Un autre appel, c'est celui du Premier ministre sortant. Augustin Matata Ponyo a demandé lors de son discours bilan à son successeur à consolider les acquis des actions du gouvernement. Dans cette émission, je vous propose un extrait de ce discours de Matata Ponyo devant la presse nationale et internationale. Les travailleurs de la société minière Tenke Fungurume Mining ont obtenu quelques concessions de la part de leur employeur. Ces agents ont observé un arrêt de travail depuis lundi pour réclamer entre autres le relèvement du barème salarial, chose à laquelle l'employeur a adhéré, nous avons appris jeudi. Voilà pour les titres, messieurs et dames. Bienvenue à la rétro sur Radio Okapi. Je suis Daniel Tambinzoni à la prise de son, Héritier Sidiakala.
Panorama économique, le dossier.
Ouvrons cette rétrospective par lundi. L'Agence nationale pour la promotion des investissements RDC a organisé à Kinshasa une matinée pour présenter les conclusions du dernier rapport Doing Business 2017 de la Banque mondiale, rapport publié le 25 octobre dernier. Selon ce rapport, la RDC est classée 184e pays sur 190 économies mondiales évaluées. Le directeur général de l'ANAPI a présenté aux participants les performances et contre-performance réalisée par la RDC sur chaque indicateur pris en compte. Le Congo avait présenté pour ce rapport 2017 5 réformes, mais seulement une avait été prise en compte. Aussi, la RDC avait enregistré une réforme négative en termes de transfert de propriété, ce qui lui a fait perdre 15 points sur le total. Cette perte a eu comme conséquence la stagnation de l'économie congolaise dans le classement Doing Business 2017. Je vous propose ici d'écouter Wivine Mumba Matipa, directeur général de l'ANAPI, qui revient ici sur l'essentiel de sa communication.
Cette matinée a été non seulement didactique, en ce sens qu'il fallait que nous fassions comprendre aux gens qui participent dans tout le processus d'évaluation du Doing Business qu'il y a des progrès qui se font, et surtout parler aussi aux administrations de notre pays pour qu'ils comprennent que les réformes qui se font ne peuvent pas nous amener à un meilleur classement si sur terrain ils n'appliquent pas les réformes. Et donc nous avions une mission importante aujourd'hui de parler non seulement aux fonctionnaires eux-mêmes mais surtout aux secrétaires généraux, puisque ce sont les secrétaires généraux qui en réalité mettent en pratique et qui contrôlent en fait les fonctionnaires. Donc c'était important qu'on puisse passer le message. L'autre message, c'est que nous déplorons le fait que nous ne bougeons pas au niveau du classement, malgré toutes les réformes qui se sont faites. Vous avez vu, la Banque mondiale vous a dit combien de réformes le Congo a fait, mais qui ne se traduisent pas réellement dans l'amélioration de notre positionnement au niveau du classement Doing Business. Ben, les causes, c'est ce que je vous dis, c'est que si vous faites une réforme et qu'elle n'est pas appliquée, la Banque mondiale n'évalue pas à partir de la réforme, la réglementation uniquement, mais à partir de la pratique sur terrain. Si sur terrain la pratique est mal faite ou n'est pas faite du tout, nous sommes sanctionnés. Donc ça ne sert à rien qu'on continue à faire des réformes et des réformes et des réformes si le service public, en fait, ne suit pas.
Mardi, c'est le Premier ministre sortant qui a fait son discours bilan devant la presse nationale et internationale. Selon Matata Ponyo, la RDC a affiché entre 2002 et 2015 des résultats économiques impressionnants. Le taux de croissance a été de plus de 7%, supérieur même à la moyenne africaine qui est de 3,5%. Un taux d'inflation ne dépassant pas 2%. Matata Ponyo a prononcé ce discours, je le disais, mardi, discours bilan de 5 années à la tête du gouvernement. Suivez plutôt cet extrait.
C'est grâce à la stabilisation du cadre macroéconomique que ce début des transformations structurelles de notre économie a été rendu possible. C'est grâce à cette croissance robuste et soutenue pendant ces années que la RDC a, jusqu'alors, mieux résisté aux chocs exogènes de la chute des cours des matières premières. C'est grâce aussi à cette exigence des gestions rigoureuses que notre pays a pu lancer d'ambitieux programmes sociaux pour améliorer les conditions de vie des populations et redonner espoir aux Congolais. C'est ainsi que la RDC, notre pays, arrive en 5e position parmi les pays dont le PIB par habitant a le plus progressé au monde depuis 2010, avec une avancée de plus de 20%. Si d'aucuns ont pu douter de l'impact de cette stabilité du cadre macroéconomique et de la gestion rigoureuse des finances publiques, il y a lieu notamment de noter que cela a permis non seulement de rattraper plusieurs mois d'arriéré des salaires dans l'administration publique, les syndicalistes de la fonction publique l'ont attesté, mais aussi d'assurer le paiement régulier des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, avec comme conséquence l'absence des grèves pendant 5 ans dans l'administration publique. Mesdames et messieurs, les gens ont oublié ce que c'est la grève.
Matata Pogno a également donné quelques résultats obtenus dans le secteur du social, lequel social rime toujours avec l'économie. On l'écoute.
Dans le domaine de l'emploi, du travail et de la formation, les initiatives publiques de promotion de l'esprit entrepreneurial des femmes et des jeunes ont été lancées avec succès. Les programmes des cadres de création d'emplois et de revenus, en appui avec la Banque africaine de développement, exécutent un projet d'autonomisation économique de la femme congolaise. Ce programme bénéficie à 9 000 femmes gérantes des petites et moyennes entreprises, dont 8 000 femmes à Kinshasa, 500 en Mbujimayi et 500 à Kananga. Et il vise à générer 9 000 emplois directs, 18 000 emplois indirects, soit un total de 27 000 emplois. Le programme Emploi-Diplôme vise, avec l'appui de la Banque africaine de développement, à doter des demandes d'emploi d'une formation professionnelle pour améliorer leur employabilité. À ce jour, 6 000 diplômés ont été sélectionnés par l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle, et sont placés en entreprise. Les statistiques indiquent que l'INPP a formé 39 680 stagiaires, dont 15 717 pour la formation continue, 19 720 pour la formation qualifiée de jeunes sans emploi et 4 243 jeunes en entrepreneuriat.
Le dernier sujet de notre dossier de la semaine est consacré à la situation qui a prévalu cette semaine à la société minière Tenke-Fungurume Mining. Cet arrêt de travail débuté lundi. Les agents de cette entreprise minière ont protesté ainsi contre la politique de TFM sur l'utilisation des appareils de communication. Celle-ci interdit l'utilisation des téléphones privés sur les lieux de travail. Les discussions ont commencé entre les travailleurs et les délégués de l'employeur, mais déjà TFM, nous avons appris ce même mardi, avait suspendu cette mesure interdisant l'utilisation des téléphones portables sur les lieux de travail. Suivez plutôt ce dossier que Denise Maéo nous avait proposé mardi soir.
Jusque ce mardi, une grande partie de l'usine et du secteur des opérations à la mine de Kwatebala de TFM était à l'arrêt. Et déjà ce lundi, le broyeur de l'usine n'était plus approvisionné en minerais bruts. Les agents de Tenke-Fungurume observent un arrêt de travail pour protester contre la politique de TFM sur l'utilisation des appareils de communication rendus publics le 18 novembre dernier. Témoignage d'un des délégués syndicaux des agents de TFM.
Il y a eu un malaise par rapport à la politique de communication qui a été émise par l'entreprise et qui n'a pas arrangé les travailleurs, étant donné que les 3/4 des travailleurs restent loin de leur famille et ils gèrent leur foyer par téléphone. Si on arrive à priver quelqu'un de la communication, ça c'est vraiment une atteinte à la liberté personnelle. Ils ont passé une nuit toujours au lieu de travail et ce matin encore, la situation continue.
Mais déjà ce lundi, l'entreprise a rendu public un nouveau mémorandum portant suspension de la politique sur l'utilisation des appareils de communication. Dans cette note, TFM dit, je cite, « Pour revenir à la politique de TFM sur l'utilisation des appareils de communication, cette politique viole-t-elle les droits des travailleurs ?» Maître Michel Loigny, chercheur en droit du travail, donne des précisions.
Si on a privé aux travailleurs le droit d'information et la liberté d'expression, là, on dirait que il y a eu violation. Mais ici, on a essayé de normaliser. Si vous êtes sur les sites, vous devez vous donner au moins à votre travail. Vous n'allez pas au travail pour aller chatter, Vous n'allez pas au travail pour aller regarder des vidéos, mais vous allez pour faire le travail.
La cellule de communication de TFM a promis de rendre publique la réaction de l'entreprise face à cette situation dès la fin des négociations.
Et les discussions avec la médiation du gouverneur de province ont porté. Il ressort de cette rencontre de discussion que TFM a adhéré à certaines revendications des agents. C'est entre autres l'augmentation du barème salarial, l'augmentation des frais supplémentaires sur le pécule congé et la révision des horaires de travail. Les travailleurs qui ont salué ces avancées voudraient que leur employeur fixe la hauteur de toutes ces augmentations avant toute reprise de travail. Le gouverneur du Lualaba, qui a participé à ces négociations, a lancé un appel de bon sens aux agents et de leurs délégués syndicaux. Richard Mouyège a été joint par Karine Toupé-Ridassi.
L'employeur a accédé à pratiquement toutes les revendications des travailleurs. Ils ont demandé l'augmentation du salaire. L'employeur a dit oui, avec effet rétroactif à partir du 1er septembre. Ils ont demandé la liberté d'utilisation des téléphones. Oui, cette mesure avait déjà cessé d'exister. Ils ont demandé la révision de l'horaire de travail. L'employeur a accédé. Ils ont demandé la révision à la hausse des frais funéraires. Oui, l'employeur a accédé. De nouveaux avantages sur leur pécule de congé, l'employeur a accédé, mais il s'est posé des problèmes de hauteur. Ils ont exigé que j'obtienne de savoir l'augmentation de salaire jusqu'à quelle hauteur. Ils ont exigé de savoir la prime particulière qui a été aussi agréée jusqu'à quelle hauteur. Là, ce n'est plus mon débat. Là, il faudrait que l'entreprise qui connaît ses possibilités, les contours de ses possibilités, ses limites, puisse faire des propositions, et cela se fait dans une réunion syndicale. Je souhaite vivement que les travailleurs comprennent que l'employeur a fait énormément de concessions. Il faut collaborer. J'espère que ça sera positif.
Panorama économique. Chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, les développements des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Les autres informations de la semaine à présent, plus bref, nous vous avions parlé lundi de la réhabilitation de plus de 272 agents de la régie provinciale des recettes du Congo central ex-repère. Le gouverneur de la province leur a personnellement annoncé leur réhabilitation dimanche au cours d'une réunion avec eux. Ces agents, disons-le, n'ont plus travaillé depuis une année. Il y a eu remise-reprise à l'Office congolais de contrôle mardi entre l'ancienne et la nouvelle équipe dirigeante de ce service public. Rissasi Tabou, le nouveau directeur général, a remplacé Madame Bernadette Mungo. La délégation syndicale de l'OCC espère que la nouvelle équipe va éponger les arriérés de salaire afin de résoudre la crise socio-professionnelle qui gangrène cette entreprise. Basile Monsoa Tchomba, président de la délégation syndicale de l'OCC, l'avait ainsi déclaré à Radio Okapi. Mercredi, les attributeurs de routes à Kananga ont réclamé le paiement de leurs factures en souffrance et la reprise des travaux de cantonnage manuel. Ils disent être menacés par les exécutants de ce cantonnage manuel parce qu'ils ne sont pas rentrés dans leurs droits. Ils l'ont signifié dans une lettre adressée au président de l'Assemblée provinciale et dont une copie était parvenue à Radio Okapi. Kananga encore est le même mercredi. Le gouverneur du Kasaï central a joué aux sapeurs-pompiers pour calmer les ardeurs des médecins élagués de la liste de la prime de risque. Il leur a demandé de patienter pour que la province suive de près leur situation. C'est ainsi que, pour éviter le pire, l'autorité provinciale a organisé le même mercredi une réunion pour comprendre ce cas et demander à chaque partie de jouer sa part. La Société nationale d'assurance a célébré le mercredi 23 novembre ses 50 ans d'existence. Créée depuis le 23 novembre 1966, la SONAS a détenu pendant 50 ans le monopole dans le secteur des assurances ARDC. Mais ce monopole venait de tomber depuis le 11 novembre avec la nomination des animateurs de l'autorité de régulation des assurances, l'ARCA. Cette nomination l'administration a ainsi inauguré la libéralisation de ce secteur et comment la SONAS entrevoit-elle son avenir après cette libéralisation des assurances en RDC? Lucien Boyemé, directeur régional Kinshasa de la SONAS, a répondu à cette question et à bien d'autres au micro de Nadine Foulantimba.
Alors, en 50 ans, qu'est-ce que la SONAS a fait?
Si on doit énumérer ici ce que la SONAS a fait en 50 ans, on pourra prendre toute une journée, madame.
Les grandes réalisations.
Les grandes réalisations, c'est-à-dire la pérennité de la SONAS. La SONAS est partie de quelque part, le 23 novembre 1966, et elle a parcouru 50 ans aujourd'hui, c'était depuis hier. Cette pérennité-là, nous pouvons déjà dire que nous avons su protéger les patrimoines. Et pendant les 50 ans, je ne pourrais pas vous dire que nous n'avons vécu que des roses, non. Nous avons vécu aussi des épines, comme on peut le dire. Mais écoutez, mais les épines, on en trouve où? C'est le manque simplement de l'accompagnement du gouvernement, ce que moi j'ai toujours dit. Vous créez l'entreprise, il faut mettre des moyens à la disposition de l'entreprise. Et les moyens que je pourrais vous dire ici, ce ne sont pas nécessairement des moyens financiers. Ce que moi j'appelle les moyens, ce sont des textes. Il faut avouer qu'au début, pendant les 5 ou les 7 premières années, la SONAS avait très bien évolué, mais à un moment donné, les textes étaient devenus caducs. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons aujourd'hui un code des assurances, comme ça s'est fait partout au monde.
Et qu'est-ce que cela a apporté?
Le code, c'est-à-dire quoi? C'est le texte qui réglemente l'industrie des assurances. Partout au monde, vous ne pouvez pas évoluer dans l'industrie des assurances sans code. Et le code ici chez nous au Congo existait en termes des textes, des lois, de gauche à droite. Mais aujourd'hui, nous avons ce que nous pouvons nous assurer, appeler la Bible, qui pourra nous permettre de bien évoluer dans le secteur.
Que répondez-vous à ceux-là qui pensent qu'il y a eu aussi des problèmes de mégestion?
Non, madame. Comment vous allez me parler de mégestion? Non. Ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Je n'aime pas trop répondre aux allégations des gens qui ne font pas partie de la famille SONAS.
Cet anniversaire coïncide avec la mise en place pour bientôt de l'autorité de régulation des assurances. Comment entrevoyez-vous l'avenir de la SONAS à l'ère de la libéralisation de ces secteurs?
Madame, je vais vous surprendre si jamais je vous dis que la libéralisation du secteur des assurances, déjà en 92, nous, la SONAS, parce que je faisais partie de l'effectif SONAS de cette époque, nous, la SONAS, nous l'avons toujours demandé. Mais aujourd'hui, ces choses faites, écoutez, nous allons l'affronter.
Vous n'avez pas peur?
Non, pourquoi avoir peur?
La concurrence.
Non, madame, c'est ici qu'on trouve l'expertise. Les assureurs, vous en trouvez où au Congo? C'est à la SONAS. Nous avons l'expertise, nous avons les qualités, nous avons les capacités. Nous allons affronter cette concurrence.
Alors, monsieur Boniemé, qu'est-ce qu'il faut pour que le marché congolais des assurances soit porteur?
Oui, madame, pour que le marché soit porteur, c'est simplement, il faudra faire appliquer les textes de loi. Vous savez, nous avons eu à l'époque des textes, mais qui n'étaient pas coercitifs. Quelqu'un qui bâtit un immeuble, la loi dit qu'on ne peut pas bâtir un immeuble si on n'a pas la couverture d'assurance et tout risque chantier. Mais écoutez, il bâtit son immeuble de 5 niveaux, 10 niveaux. Vous allez vers lui, vous lui opposez la couverture d'assurance. Il refuse. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, l'assureur? Il n'y a pas de texte qui vous accompagne dans ce genre de comportement. Et aujourd'hui, avec les codes, si ces codes-là sera très bien appliqué, je crois que le secteur des assurances va donner des moyens à l'État congolais.
Mais on a l'impression que beaucoup d'entreprises sont plus assurées à l'étranger. Que doivent-elles faire maintenant, alors que le marché est libéralisé?
Non, madame, là, le problème est déjà réglé par les codes. Les nouveaux codes n'acceptent plus ce genre de pratiques. Donc, avec le nouveau code des assurances, aucun risque ne pourra quitter le Congo pour aller être couvert à l'étranger. Ça ne se fera plus.
Merci, monsieur.
Merci, madame.
Et nous allons terminer panorama économique de cette semaine par l'ONG OCISA qui a organisé mercredi à Kinshasa et par le truchement de sa branche Sahroa RDC une matinée de réflexion sur les conclusions des analyses menées sur les contrats miniers et pétroliers signés en RDC. Ces analyses ont été initiées par cette ONG quelques années après la revisitation des contrats miniers pour voir si l'environnement dans lequel les négociations de ces contrats avaient eu lieu étaient favorables. C'est ce que Georges Bokondou nous a expliqué dans cet entretien. Georges Bokondou est le coordonnateur de Saroua RDC.
Nous avons mis en place un petit projet qu'on peut considérer d'analyse ou d'évaluation des différents défis que nous avons dans la gestion des contrats miniers pétroliers en RDC. Tout part du dialogue inter-congolais à Sand City où il y a eu des résolutions. Et il y a même eu une commission parlementaire dite commission Lutundula qui a revu certains contrats à l'époque. Et en 2007, il y a eu la revisitation des contrats miniers. Les choses ont évolué. Mais nous nous sommes dit, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Est-ce que les résultats ici de ces différentes plateformes, est-ce que nous pouvons encore tirer une leçon? C'est dans ce contexte-là qu'on a mis ces projets en place au niveau de Saroua. Et pour analyser un peu, on a pris trois contrats, par exemple, au niveau des contrats miniers et quelques contrats pétroliers.
Quels contrats, par exemple?
Nous avons pris les contrats, par exemple, KCC. On a pris la convention Sakima. On a parlé un peu de TFM et après analyse faite par la faculté de droit de l'université de Kinshasa, après la table ronde où nous avons à Lubumbashi, nous avons associé quelques professeurs de l'université de Lubumbashi, nous avons fait aussi le choix de quelques experts qui ont lu les différents commentaires. Et nous avons sélectionné à peu près 7 problèmes, 7 cas. Le premier cas que nous avons passé le matin, c'est dire quel est l'environnement de signature des contrats en RDC. Mm-hmm. Et cet environnement a été favorable pour le pays. On a remarqué que lorsqu'on fait une analyse concrète, on a constaté comme si la plupart des négociations que nous avons eues pour signer les contrats ou les contrats miniers ou pétroliers, il y avait toujours des problèmes de gouvernance. Soit la période de faiblesse institutionnelle, il y a eu la guerre, il y a eu l'impossibilité, par exemple, pour les compagnies minières d'accéder au financement. Il y a eu peut-être toutes sortes de pressions, de tensions au niveau du pays. C'est un mauvais environnement qui n'était pas favorable pour le pays. De deux, nous avons parlé par exemple d'un contrat, le contrat Sicomine, parce que ça fait aussi l'objet d'études, d'analyses. On a compris que c'est un meilleur exemple, un bon exemple, mais il y a beaucoup de défis là-dedans. Les défis de contrôle, les défis de gestion de ces contrats.
Le contrat Sicomine, c'est le contrat chinois.
Chinois, c'est le contrat dit chinois, où il y a la Gécamine et les groupes d'entreprises chinoises. Là où on a remarqué que les modèles devraient permettre au pays d'avoir beaucoup d'infrastructures, un montant fixé à 3 milliards pour les infrastructures, et qu'au stade actuel, on n'a pas encore consommé 1 milliard, 8 ans après ou 6 ans après, pendant que la mine a commencé la production. Il y a la question des possibilités de renégocier les structures de capital social de certains joint ventures. Parce que dans la plupart des cas, vous allez voir que les investisseurs ont apporté des capitaux frais qui ont permis à ce qu'on développe notre secteur minier aujourd'hui. Mais c'est le fait d'avoir apporté des capitaux, ils ont eu la majorité dans les partenariats. Alors la question que les experts, les participants discutaient, c'est de dire, ok, les jours où l'investisseur ou les partenaires récupèrent tout son investissement, même les intérêts, est-ce qu'il doit toujours garder la majorité? Il avait 80% parce qu'il a apporté le financement. C'est ça les discussions qu'on a ici. Bon, les uns ont considéré que c'est la question de la volonté des partis, ils peuvent négocier. D'autres aussi ont estimé qu'il ne faut pas tellement aller dans la rébellion contre les partenaires qui vous ont aidé. Mais tout compte à dire que les partis peuvent renégocier, surtout lorsque les partenaires ont récupéré tout. Mais la question principale que les gens se sont posées, est-ce que les partenaires congolais, la Gécamine, la Sokimo, ont les capacités nécessaires de savoir qu'est-ce que les partenaires a déjà tout récupéré. Quel mécanisme ils doivent faire pour gérer, parce qu'il faut contrôler les coûts. Les coûts de ce que l'autre a déclaré, les coûts d'investissement apportés. La technologie a tellement évolué, et surtout lorsque les partenaires gèrent celle, il peut mettre toutes les dépenses sur le lot et il ne peut pas vous dire à quel moment. Donc l'État devrait avoir la capacité de créer des mécanismes de contrôle de gestion. Et on a cité le cas de Botswana où lorsque l'investisseur a récupéré tout l'investissement, tout le capital investi, et l'État a approché son partenaire pour dire non, écoutez, vous avez tout récupéré. Maintenant, nous devons répartir le capital. C'est une question d'équité. Vous ne devez pas garder encore 80% pendant que vous avez récupéré tout ce que vous avez apporté. Moi, j'ai la mine. Moi, c'est ma ressource naturelle. Mais je ne dis pas que je t'arrache. on ne nationalise pas, mais équilibrons un peu notre participation. Parce que moi, c'est ma ressource qui continuera à produire.
À 50-50.
50-50 ou même 40-60, ça deviendrait équilibré au lieu de rester à 20-25-85 ou 20-80. C'est un déséquilibre qui a été. Donc, l'idéal, c'est sommes en train de discuter les questions clés du secteur minier comme du secteur pétrolier. Et les mêmes problèmes que nous pouvons découvrir, l'environnement des signatures des contrats dans le secteur minier peut être demain, surtout avec un secteur pétrolier qui a l'ambition d'être un grand secteur avec les potentialités que le pays regorge.
On a cité les projets, par exemple la cession ou encore la vente des parts dans Sokimo qui a rapporté beaucoup d'argent, mais dont la Sokimo n'a pas vraiment bénéficié. Et il se pose aussi une question par rapport à l'actualité, par rapport à la vente par Freeport Mark de ses parts dans Tenke Fungurum Mining et de toutes ces choses, il s'est dégagé un problème de mauvaise gouvernance dans les entreprises publiques.
Les participants ont soulevé, et puis ça a été une très grande discussion, de voir une entreprise qui a eu des problèmes, qui connaît encore des problèmes, qui a eu un partenaire. Après la révisitation, l'objectif c'était d'équilibrer les participations, le capital social. Mais la Sokimo qui avait 30% a été amenée à vendre 20%. Objectif principal, c'était de voir dans quelle mesure il peut développer son propre projet minier. Les montants ont été cités. Mais le problème, c'est de dire, les gens se posent la question, mais qu'est-ce que la Sokimo a fait de cet argent? Même si l'État a droit d'avoir une partie de cet argent, pourquoi la Sokimo ne pouvait même pas développer une mine pendant que ses partenaires dans Kibali Gold ont investi plus de 70 millions de dollars pour découvrir près de 80 millions d'onces d'or? Est-ce que même la moitié de 70 millions, est-ce que vous ne pouvez pas faire un petit projet avec les revenus ici de cette vente? C'est une inquiétude. Tout ça, c'est que les raisonnements ou les réflexions qu'on dit, c'est pour que l'État demain puisse dire, mais ok, j'ai besoin d'argent et que l'entreprise, j'oriente l'entreprise à faire ceci, mais j'ai l'ambition de faire développer, de faire revivre cette entreprise. C'était ça la préoccupation des participants.
Et au final, les résolutions de cet atelier, à qui vous comptez les adresser?
Les destinataires principaux, c'est le gouvernement. Nous n'avons pas l'intention d'envoyer à une autre personne, c'est d'abord le gouvernement. Et les parlementaires auront ça parce que nous allons les distribuer et la réflexion pourrait aussi contribuer à d'autres pays, à d'autres, parce que nous sommes quand même dans une région où nous tirons l'expérience des autres, parce que quand on parle du Botswana, il est dans la SADC, pourquoi pas chez nous les autres ne peuvent pas tirer de l'expérience de ce que nous faisons ici comme échange et puis partager ce jeu nous-mêmes, même les entreprises elles-mêmes, parce que ce que nous soulevons ici, ce n'est pas pour critiquer qui que ce soit, mais c'est plus pour dire que non, vous êtes gestionnaire aujourd'hui d'une entreprise publique, même demain, ça a été dit dans les travaux, même demain on peut vous poursuivre pour avoir mal géré, pour avoir pris des décisions qui n'ont pas permis à l'entreprise de s'envoler ou de se développer.
Merci Georges Bokontou, merci à vous chers auditeurs de Radio Okapi. C'est sur ces mots que nous refermons Panorama économique de cette semaine. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission que je vous convie de retrouver sur www.radiookapi.net. À la prise de son, je salue le service de Hérité Sidiakala. Prenons rendez-vous lundi dans Écho d'économie. En attendant, très bonne suite de programmes sur Radio Okapi et bon week-end.